Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
La prédication portera sur l'épître de Jacques, que nous suivons en entier avec Timothée, notre pasteur, mais nous aurons deux lectures complémentaires, l'une dans Genèse 15, les six premiers versets de Genèse 15. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Dans Hébreux 11, encore un texte complémentaire, Hébreux 11, les quatre premiers versets de ce fameux chapitre sur la foi. Hébreux 11, premier verset, « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. Et par elle, quoique mort, il parle encore. » Et maintenant, l'épître de Jacques. Nous en sommes au chapitre 2, la fin de ce chapitre qui concerne la foi et les œuvres. Jacques 2, versets 14 à 26, que nous lisons maintenant. Jacques 2, 14. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte.
Si j'étais mort, je ne pourrais rien vous dire. Et vous ne m'entendriez pas non plus. Et je serais complètement inutile pour vous. Eh bien, comme la compréhension de la Bible est morte sans le Saint-Esprit, nous croyons qu'il est vivant et nous comptons encore sur son œuvre aujourd'hui. Nous voici à nouveau dans l'épître de Jacques, comme le disait Roland tout à l'heure, que nous poursuivons. Nous avons étudié le premier chapitre de ce livre, nous avons commencé le deuxième chapitre, et si nous voyons un peu la vue d'ensemble de ce livre, eh bien nous pouvons voir quatre parties. Une première, c'est la foi dans l'épreuve. Au début du livre, on voit cette foi dans l'épreuve qui nous parle aussi de maturité chrétienne. Ensuite, une grande partie, et nous sommes dans cette partie-là, nous parle de la mise en pratique qui démontre la foi. Et le livre se termine par l'action de la foi dans la maladie et pour le salut des autres. Et dans la partie de la mise en pratique dans laquelle nous sommes, nous avons déjà vu que la foi en pratique, c'est être lent à la colère. Rapide à écouter, lent à parler, enfin on avait vu tout ça ensemble. Donc ça fait partie de la mise en pratique de la foi, c'est la foi en pratique. Ou encore, nous avons vu que la foi en pratique, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Pas seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Nous avions vu ça. La foi en pratique, et c'est la dernière fois, nous avions vu que c'était d'être impartial. On ne faisait pas de différence entre les personnes. Et ça, c'est une manière aussi de mettre la foi en pratique. Et aujourd'hui, nous verrons qu'il existe une foi vivante et une foi morte. Voilà, ça c'est le thème du jour. Et par la suite, il y aura encore trois autres éléments que nous verrons, c'est que la foi se manifeste aussi par la maîtrise de la langue. Ou encore, la foi se manifeste par la sagesse. Ou encore, la foi se manifeste par la reconnaissance de notre état de pécheur et par la repentance. Donc, ayons une vue d'ensemble. Maintenant, nous allons faire donc ce zoom sur cette partie, une foi vivante et une foi morte. Et aujourd'hui, Jacques commence par nous poser une question. Donc, ayez avec vous votre Bible ouverte dans l'épître de Jacques au chapitre 2. Comme ça, on peut toujours s'y référer. Et donc là, on commence au verset 14. Où Jacques pose une question. Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Et Jacques nous met un peu au défi quelque part avec cette première question, un peu comme Paul aussi dans 2 Corinthiens 13 au verset 5 où il nous dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi ». Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Comment reconnaître que Christ est en nous et que nous avons la foi qui sauve? Alors, Jacques développe cela dans le texte du jour, mais avant de nous plonger dans le développement du texte lui-même, ce texte à rebondissement, on verra, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous montrer que Jacques n'est pas le seul à parler de cela. Donc le premier point, ça sera Jacques n'est pas le seul à parler de l'importance des œuvres. Ça sera notre premier point. Notre deuxième point, eh bien nous discuterons la foi ou les œuvres.
Voilà, on en parlera ensemble. Et puis ensuite, on suivra Jacques dans tous ces exemples qu'il nous donne. Il veut nous convaincre. Hein. Il a pas donné qu'un exemple, pas seulement deux, pas seulement trois. Enfin, on verra tout ça. On a déjà lu tout à l'heure, mais on va s'y plonger. Donc, premièrement, Jacques n'est pas le seul à dire que les œuvres sont importantes. Dans les évangiles, Jésus revient à plusieurs reprises sur l'importance de manifester sa foi par ses actes, par des actes concrets, des œuvres, en fait, de porter du fruit. Jésus revient à plusieurs reprises dans les évangiles pour cela. Et en fait, le porter du fruit fait partie d'une foi authentique. Un ou deux exemples. Prenons un exemple. Oh là, ça allait un peu trop vite, je reviens. On va prendre le premier exemple, c'est donc le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui vient vers Jésus et pour lui demander « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Bonne question. Ou « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Dans Luc 18:18 exactement. Jésus commence par lui présenter qui est Dieu. C'est le seul qui est bon. La foi donc est un ingrédient essentiel. Croire en Dieu, c'est vrai. Il lui parle ensuite des commandements de Dieu, et que l'obéissance est essentielle. Il lui parle des divers commandements de Dieu. Hein. Et le jeune homme confesse, il le dit, hein, j'ai fait cela. Alors Jésus lui demande de mettre sa foi en action, hein, et de manifester, de le démontrer dans son contexte à lui. Et il lui dit, il te manque une chose, va, vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. En fait, il dit à cet homme, il te manque une chose, c'est une foi vivante, une foi qui a des œuvres, une foi qui manifeste dans ton contexte que tu fais vraiment totalement confiance à Dieu, en fait que ton cœur est à lui. Mais Jésus n'a pas souligné cela qu'une fois. Il a parlé à plusieurs reprises de l'arbre qui se reconnaît à ses fruits, de la mise en pratique de la parole de Dieu, ou même de construire sur des fondements solides. Et d'ailleurs, Matthieu 7, il rassemble tout ça. Alors, on va lire ce texte. Donc, vous pouvez garder un petit doigt dans Jacques 2, et puis tourner dans votre Bible. Donc, on revient en arrière, c'est au début du Nouveau Testament, dans Matthieu 7. Et on va lire à partir du verset 17. Matthieu 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté, œuvre, si vous voulez, de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, écoutez bien les œuvres qu'ils font, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont portés sur cette maison. Elle ne m'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Jésus parle des œuvres qui sont avec la foi. Nous pourrions encore parler de Matthieu 25, lorsque Jésus parle du jugement. Il n'est pas question de foi pour être sauvé dans Matthieu 25. Non pas que la foi n'est pas essentielle, mais la foi se voit dans les actions pratiques. Sans ces actions, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si vous dites « je crois en Dieu » et qu'il n'y a aucune action dans votre vie, c'est inutile. Inutile. La foi est morte. Et dans Matthieu 25, là je vous lis ces quelques textes, voilà, voici ce qu'il est dit. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, donc c'est ceux qui sont sauvés, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et là, il donne des raisons. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, mais quand avons-nous vu avoir faim? T'avons-nous donné à manger, avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade et en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » La foi se manifeste par des œuvres. Bon, je vais m'arrêter sur ce que Jésus dit. Vous pouvez reprendre tous les évangiles et puis chaque fois aller voir et souligner que Jésus ne sépare jamais la foi des œuvres. C'est quelque chose qui est lié. Pierre, on a parlé de Jésus, mais on peut parler de Pierre. Pierre, lui, soulignera que la foi, qui est, on pourrait dire, la part à la nature divine, hein, poussera à vivre d'une certaine manière et ne laisse pas sans activité ni sans fruit. Ça, c'est Pierre qui amène ça. Hein. Il souligne, en fait, que la foi, hein, qui est la part à la nature divine, poussera à vivre d'une certaine manière et ne laisse ni sans activité ni sans fruit. Voici ce qui est dit dans 2 Pierre, alors là vous tu regardez Jacques 2, puis là on va plus loin, c'est après Jacques, on va dans 2 Pierre, d'ailleurs un texte qu'on a lu il n'y a pas longtemps, donc ça devrait faire un peu écho. Donc 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi ne reste pas sans activité ni sans fruit. L'apôtre Jean, il y a eu Jésus, il y a eu Pierre, mais non, l'apôtre Jean, dans sa première épître, nous fait passer en fait par toutes sortes de tests pour savoir si nous avons une foi véritable. Cette foi se voit. Et là, je ne donne qu'un exemple. Vous pouvez relire toute l'épître de 1 Jean. Hein. Mais un exemple, dans 1 Jean 2, au verset 3, il est dit ceci. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. C'est visible, ça. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur a marché. Ça, c'est Jean. Vous pouvez relire toute l'épître de 1 Jean et noter les différents tests que nous avons d'ailleurs vus ensemble lorsqu'on avait prêché sur toute l'épître de Jean il y a quelques années. Jésus, Pierre, Jean et Paul. Paul est souvent opposé à Jacques au sujet de la foi et des œuvres. On en parlera encore un petit peu tout à l'heure. Mais voici ce qu'il écrit dans Tite. Tite 1, au verset 16. Il dit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres ou leurs œuvres. Ils sont odieux, rebelles et incapables d'aucune œuvre bonne. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est visible ça, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste, pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, écoutez bien, zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter, reprendre avec pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-toi, c'est toujours Paul qui parle à Tite ici, on est au chapitre 3, verset 1 maintenant, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Et vous pouvez encore parcourir les lettres de Paul et vous verrez que la foi en Christ a des conséquences dans la vie pratique. Regardez, dans toutes les lettres de Paul, la foi en Christ a des conséquences dans la vie pratique. Ce n'est pas juste la foi, puis voilà, on ne fait rien et puis on est sauvé. Ce n'est pas ça que Paul dit. Quand on vient de lire ce texte dans Tite 1, 16 à 3, 2, très clairement. Donc vous pouvez parcourir ces lettres de Paul, vous verrez que la foi en Christ a des conséquences dans la vie pratique. Alors j'espère, avec ces quelques instants, je n'ai pas pu prendre beaucoup de temps pour vous donner tous les textes du Nouveau Testament, et puis je n'ai même pas pris de texte de l'Ancien Testament, parce qu'en fait on peut faire le même exercice avec les prophètes de l'Ancien Testament et se rendre compte, il y en a un, Ésaïe, qui vient peut-être très rapidement à l'esprit, qui vous dit ça ne sert à rien de dire des choses, c'est le cœur, c'est ce qu'on va vivre réellement, qui manifeste notre foi. Donc j'espère qu'on a compris que Jacques n'est pas le seul à parler de l'importance des œuvres. C'est ce que certains veulent promouvoir. J'espère que cette fois-ci, c'est de côté. Alors on passe au prochain point, qui est la foi ou les œuvres. Alors c'est vrai que Paul a aussi écrit que nous sommes sauvés par la foi seule et qu'aucune œuvre ne peut nous sauver. Vous pouvez regarder dans Éphésiens 2, 8 et 9, c'est clairement dit. Mais cela ne contredit pas Jacques, et je vous explique pourquoi. Parce que Paul oppose la foi qui saisit la grâce pour être sauvée aux œuvres qui veulent saisir un mérite pour être sauvées. Ça, c'est ce que Paul oppose, en fait. Il oppose la foi qui saisit la grâce pour être sauvée aux œuvres qui veulent saisir un mérite pour être sauvées. Ça, c'est ce que Paul fait. Et Jacques aussi parle de foi pour être sauvé. Mais lui, il oppose la foi vivante qui saisit la grâce pour être sauvée et la foi morte qui, implicitement, ne peut rien saisir du tout. Donc Jacques, lui, oppose la foi vivante qui saisit la grâce pour être sauvée avec une foi morte qui, implicitement, ne peut en fait rien saisir. Ce qui est mort ne peut rien saisir. Comment si j'étais mort, je ne pourrais même pas vous parler. Or, Paul dit clairement que les œuvres en dehors de la foi ne sauvent personne. Vous pouvez faire toutes les œuvres que vous voulez. Ça ne va pas vous sauver, ça ne va pas nous sauver. Et Jacques dit que la foi sans les œuvres n'a aucune vie. Une foi qui n'a pas d'œuvre n'a pas de vie et ne sauve personne. Donc une manière de bien comprendre cela est de le comprendre peut-être de manière chronologique. Il y a différentes manières de le comprendre. On a vu les oppositions. Paul qui oppose la foi qui saisit la grâce ou les œuvres qui veulent la mérite. Donc ça, c'est l'opposition de Paul. Jacques, la foi vivante qui saisit la grâce, la foi morte qui ne peut rien saisir. Ou bien on peut regarder ça chronologiquement. D'abord, il y a la foi en Christ qui saisit la grâce du salut. Et ensuite, les œuvres produites par cette foi qui manifeste cette grâce. Donc la foi va produire des œuvres. Et ce n'est pas l'inverse. La Bible n'enseigne pas qu'il faut faire de bonnes actions pour être accepté par Dieu, afin qu'il nous sauve du jugement de nos péchés et qu'ensuite nous croyons en lui. Ou pire encore, qu'il croit en nous à cause de nos bonnes œuvres. Ce serait impossible d'être sauvé du juste jugement qui pèse sur toute personne dès qu'elle a commis un seul péché. Impossible. Non, on n'a vraiment rien à lui apporter par nous-mêmes. Par contre, une fois transformé, ça doit se voir. Une fois notre vie transformée, cela va se voir, va se manifester, petit à petit, évidemment. Un âne transformé en lion commence à manger de la viande. Sinon, il n'est pas transformé en lion. Une chenille transformée en papillon commence à manger le nectar des fleurs et plus manger les feuilles. Le papillon se déplace en volant et plus en se tortillant. On a vu ça d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Une foi vivante produit des œuvres. Une foi vivante produit des œuvres. Et celui qui est transformé peut en parler. Donc Jacques veut que ses lecteurs soient convaincus. Il prend alors plusieurs exemples. On arrive maintenant, on va suivre ce texte, pour souligner ce qu'il veut qu'ils comprennent. Jacques, il insiste. Alors des fois, on me dit que j'insiste. Désolé, j'en ai trouvé un qui insiste plus que moi ici encore. Donc c'est notre troisième point, les exemples de Jacques. On pourrait dire ici, la foi sans amour est morte. C'est le premier élément. Il commence par donner un exemple très concret. De l'amour mis en pratique dans les besoins essentiels de la vie, de la chaleur et de la nourriture. Regardez avec moi, Jacques 2, 14. Donc mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres, cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, donc ça ne veut pas forcément dire sans habit du tout, ça veut dire qu'ils ont froid, voilà. Si on regarde le texte original, et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Voir une bouteille pleine d'eau alors que la mort par la soif se fait sentir, croire qu'elle existe et même affirmer que cette réalité nous sauvera de la mort, mais ne pas la boire, c'est inutile. Celui qui est assoiffé doit mettre sa foi en pratique et prendre cette eau qu'il croit vraie et la boire, et il va également la partager. Celui qui est assoiffé doit mettre en pratique sa foi et prendre cette eau qu'il croit être vraie, la boire, et il va également la partager. Il est inutile de dire à celui qui meurt de soif que l'eau existe et de ne pas lui en donner. J'ai de l'eau. Tu meurs pas si tu bois de cette eau. Mais je te la donne pas. C'est la même chose que Jacques dit ici. C'est inutile. C'est comme la foi sans œuvre. J'ai la foi, mais quelque part, il n'y a rien qui change dans ma vie. Mais t'es pas sauvé. Non, c'est pas ça qui sauve. Ou plutôt, cela démontre que nous ne sommes pas sauvés, pour être plus précis. Deuxième élément, parce qu'il continue. Alors Jacques, il dit, vous n'avez encore pas compris. Alors là, maintenant, il prend des arguments assez forts quand même. Donc, il veut montrer que la foi des démons ne sauve pas. Il veut faire comprendre une réalité. Alors, verset 18. « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Ah ouais, il ne va pas avec le dos de la cuillère ici. Une foi de démon, c'est croire que Dieu existe. C'est même croire à tout ce que la Bible dit et même être certain qu'il y aura un jugement un jour. Et les démons tremblent. Et plusieurs épisodes de la vie de Jésus nous montrent que ces démons réellement tremblent. Donc pour eux, c'est une réalité, c'est vrai. Mais les démons, s'ils croient que tout cela est la vérité, ne s'y plient pas et ils ont de la haine pour Dieu et pour tout ce qu'il dit. Voilà la foi, la pseudo-foi des démons. Les démons, s'ils croient que tout cela est la vérité, ne s'y plient pas et ils ont de la haine pour Dieu et tout ce qu'il dit. Alors c'est vrai que quelqu'un peut réciter une confession de foi extraordinairement juste, car il l'a appris, il connaît les concepts. Mais cela n'a pas d'effet sur sa vie. Si on reprend l'image du jeune homme riche, il ne va pas vendre tout ce qu'il a pour Jésus. Son cœur, en fait, n'y est pas. Il y a de larges parties de sa vie sombre dans lesquelles il ne veut laisser entrer personne, et surtout pas Jésus-Christ ou quelqu'un qui est en lui. En fait, avoir une foi de démon est absolument terrible, car on a l'impression de tout connaître, d'être incollable pour toute réponse théologique, mais avec un cœur complètement opposé à Dieu, qui ne cesse de dire et de vivre en disant que vivre avec Dieu, c'est ne pas avoir la permission de s'amuser, c'est avoir des panneaux interdits sur les chemins du plaisir immédiat, etc. Ça, c'est la foi des démons. L'amour de Dieu n'a aucun effet dans la vie de celui qui a une telle foi. Dieu est vu comme méchant, dur, incapable de retenir la souffrance et le mal. la vérité et la lumière sur sa vie n'est pas du tout désirée. Alors, si vous vous trouvez sur cette pente glissante de la foi du démon, je vous en supplie, ne restez pas là. Demandez pardon à Dieu de ne pas lui faire totalement confiance, quoi qu'il arrive. Repentez-vous de cette recherche de vouloir produire des œuvres qui veulent mériter, en fait, sa bonté. Alors, comprenez-moi bien, une confession de foi exacte de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ, Dieu homme, du salut totalement accompli que nous recevons par grâce, etc., est important. Ce n'est pas que ces notions de confession, il faut les laisser de côté, pas du tout. Mais c'est complètement inutile si cela ne produit pas de fruits dans notre vie. Car un homme qui voit et croit qu'un rocher tombe sur lui, mais qui ne s'écarte pas, c'est la même chose que celui qui croit le jugement de Dieu, etc., mais en fait, qui ne se repent pas. C'est exactement la même chose. C'est inutile. Il meurt écrasé par ce rocher. Mais Jacques, il continue. Il insiste. Ce serait déjà pas mal, je trouve, hein, mais là, il insiste. Après, ben, il insiste en donnant un exemple positif. Ça, c'est bon aussi pour nous d'avoir des exemples positifs, hein. Jacques insiste en présentant maintenant Abraham, verset 20. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié. Et non par la foi seulement. C'est intéressant. Parce que Jacques ici cite un texte qui est dans Genèse 15. Alors qu'il prend l'exemple de ce qui s'est passé dans Genèse 22. Les mathématiques, ça va ou bien pour vous ? Alors c'est assez facile ce matin. Parce que c'est juste pour comprendre que 15, ça vient avant 22. Ça va pour jusque-là, ça va ? Donc en fait, dans Genèse 15, qu'on a entendu tout à l'heure... Abraham n'avait pas encore son fils Isaac. Et il est dit que c'est la foi d'Abraham qui lui est comptée comme justice. Genèse 15, verset 6. On peut donc dire que Abraham est justifié par la foi avant d'avoir Isaac. Donc avant même d'avoir Isaac, Abraham était déjà justifié par la foi. Et dans Genèse 22, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, donc c'est après, hein? Donc nous voyons Abraham qui a toujours cette même foi et elle est maintenant éprouvée. Il est dit dans Genèse 22, verset 1, « Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Et Abraham va obéir à Dieu. Sa foi a une application pratique. Il va agir, il va se déplacer, il va prendre son fils, il va préparer l'autel, il va même le ligoter, il va même être prêt à le tuer pour obéir à Dieu jusqu'à ce que Dieu l'arrête. Jusqu'à ce que Dieu l'arrête. Et l'ange lui dit, c'est Genèse 22 donc, « N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Et Jacques le dit bien, « Par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. » Non pas qu'il n'avait pas besoin d'être justifié, de foi pour être justifié, et qu'elle est apparue après qu'il ait sacrifié son fils. Non, elle était présente déjà avant et s'est manifestée de telle manière que tous, et nous encore en 2023, eh bien nous pouvons dire vraiment, en voyant ce que Abraham a vécu, que Abraham agissait, que la foi d'Abraham agissait avec ses œuvres. Et ses œuvres le justifient parce qu'elles démontrent sa foi vivante. Comprenez ? C'est la foi qui a produit ses œuvres. Et le fait qu'on voit cette œuvre d'Abraham nous dit, ben, il a la foi qui sauve. Voyez ? Une personne qui ne fait que parler de cuisine, mais qui ne fait pas la cuisine, est-il vraiment un cuisinier ? Non, c'est celui qui fait la cuisine qui est un cuisinier. Et il peut en parler aussi, évidemment. Bon, on devrait être convaincu gentiment, non ? Eh bien, Jacques en remet une couche. Ah, il en remet encore une couche. Hein. Peut-être que vous dites, bon, Abraham, c'est vrai, c'est vraiment un personnage dans la Bible. Vous êtes d'accord? C'est comme un personnage fondateur. La Bible l'appelle même le père de la foi. Donc, c'est normal qu'il vive sa foi quand même. Hein. Mais moi, je ne suis pas un si grand personnage. Je ne suis pas Abraham. Bon, sympa, Jacques, mais... Alors, Jacques, il ne veut pas que nous restions sur ce sentiment. C'est pourquoi il nous parle également d'une personne qui a une toute jeune foi, toute fraîche. Verset 25, Jacques 2, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres pour avoir reçu les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Oh, Rahab... Ça se trouve où dans la Bible, l'histoire de Rahab? Ça vous dit, ça donne une idée ben... Josué, excellent, voilà. Ah oui, les dames sont en train d'étudier Josué, donc c'est assez frais. Donc Josué 2, si vous commencez à le lire, vous pouvez le relire, hein, vous rendrez compte qu'en fait, Rahab confesse sa foi. Elle dit qu'elle croit en ce Dieu, elle le reconnaît comme étant le vrai Dieu. Hein. Et puis, elle le confesse à ses espions qui sont venus chez elle, ou ses messagers, comme Jacques les appelle ici. Et ensuite, elle les cache. Et en fait, elle sauve leur vie en exposant la sienne. En fait, si elle était attrapée avec ses espions, elle serait exécutée, très clairement. Mais elle a choisi son camp. D'ailleurs, dès que les espions sont partis, elle met tout de suite le cordon écarlate indiquant son appartenance à la fenêtre. C'est très marquant. Elle dit, c'est dangereux ce qu'elle fait là. Ah non, elle, c'était très clair. C'était pour elle, elle appartenait déjà quelque part à ce peuple dont elle fait partie, il a fait partie, et elle est maintenant même dans l'ascendance de Jésus-Christ. Hein, donc est-ce que Rahab a fait tout juste dans sa manière de protéger les espions? Eh bien, vous savez quoi? En parlant de Jacques, là n'est pas la question. Ça, il faut aller aux études de dames, si vous voulez réfléchir à ça. Ou relire Josué et en parler, on peut en parler volontiers. Mais là, ce n'est pas la question. En fait, s'appuyant sur sa jeune foi et avec les moyens qu'elle connaissait, elle a choisi son camp et protégé ceux du peuple de qui elle fera partie. Voilà ce que Rahab a fait. Sa foi a été appliquée. Elle n'était pas stérile cette fois. Elle a protégé ces personnes, même au détriment de sa propre vie. Si Rahab avait dit qu'elle croyait en Dieu, hein, ses espions lui disant tout ce qui s'est passé en Égypte, et ensuite les aurait livrés à son peuple, elle aurait démontré que sa foi était morte. Mais elle n'aurait pas été épargnée. Alors nous ne sommes plus ici face à un géant de la foi. Nous sommes face à une personne qui ne connaît même pas encore très bien Dieu, mais qui place en lui sa confiance. Et à elle, en fait, on peut tous s'identifier. On peut tous s'identifier. Même si on connaît un peu mieux, ben, tant mieux si on connaît encore un peu mieux l'Éternel, mais on peut tous s'identifier à elle. Jacques fait tous ses efforts ici pour nous aider à comprendre que la foi est en lien avec tes actes. Qu'une croyance qui n'a aucun impact dans notre vie est comme celle des démons. Et il veut nous encourager en nous faisant penser à Abraham, à Rahab. Et nous pouvons lire tout le chapitre 11 d'Hébreux. On en a lu un petit bout avant. Qui nous parle de personnes ayant la foi. Et si vous commencez à lire ces textes, vous vous rendez compte que il a la foi et il a fait quelque chose, et quelque chose de visible qui était fait, qui démontrait cette foi. Ce n'est pas quelque chose qui reste caché, ce n'est pas possible. Et quelle joie de voir la foi vivante en nous, en fait. C'est magnifique de voir la foi vivante. Hein, quelle joie de la voir dans la vie des autres. Cette foi nous donne une grande confiance, elle nous fait voir Dieu tel qu'il est dans sa bienveillance. Elle nous assure un avenir glorieux. En fait, c'est beau les œuvres de la foi. Je vous encourage à ne pas chercher de l'extraordinaire. Hein, parfois, on se dit, s'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, je ne suis pas chrétien. Alors, qu'est-ce que l'extraordinaire? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors, si l'extraordinaire, c'est vivre autrement que dans le péché, alors oui, tout est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Mais c'est simplement des choses simples de la vie. La confiance qu'on a en Dieu, ce désir de vivre pour lui, de l'aimer par-dessus tout, de chercher sa gloire, etc. Et n'hésitez pas à dire à quelqu'un après le culte, par exemple, un élément où vous avez vu dans sa vie sa foi être mise en pratique. C'est encourageant. Si quelqu'un vient vers vous et dit « Mais là, je vois que ta foi a été mise en pratique dans cette situation. » T'es là « Ah, je n'ai même pas vu. » Mais ça m'encourage. Ça m'encourage à continuer à placer ma foi en Christ. Ou bien « Ouais, c'est vrai, mais tu n'as vu que la moitié du quart, du tiers, parce que c'était une lutte très difficile pour mettre ma foi en Dieu dans cette situation-là. » Mais voilà. Je veux dire, c'est une manière de s'encourager. N'hésitez pas à parler de ce que la foi a changé dans votre manière de vivre, dans vos choix, dans vos motivations. C'est ainsi que nous le glorifions, celui qui nous donne la foi, qui en est la source. La foi en Jésus m'a motivé à ceci, ou sa parole m'a guidé ainsi, etc. Et vous commencez à glorifier Dieu. Et on s'encourage et on se réjouit de ses œuvres. Et vous aurez toujours encore des choses dans votre vie à dire, ouais, ben là, c'est encore pas exactement comme ça. Puis alors, on va dire, moi non plus. Moi aussi, j'ai encore des choses à grandir et progresser. Mais je vois déjà des éléments qui me montrent l'œuvre de Dieu dans ma vie et dans ta vie. En conclusion, nous avons vu qu'il n'y a pas que Jacques qui nous indique que les œuvres sont importantes. Nous avons compris qu'une foi sans œuvre est inutile et qu'une personne morte à nos côtés ne peut rien pour nous. Bon, je ne vais pas vous faire le truc, je tombe mort ici, mais voilà, vous comprenez que... Vous trouverez au dos du document, d'ailleurs, des signes que l'on voit chez le croyant, mais qui ne sont pas des preuves d'un christianisme biblique, et vous trouverez également les fruits d'une foi vivante. Et pour ceux d'entre nous qui ont été saisis par l'Évangile et qui, par la foi, ont saisi cette grâce, moi, je nous encourage à nous réjouir, des changements que Dieu fait en nous. Oui, on en aimerait encore plus. Ben oui, évidemment, on s'en réjouit encore. Mais réjouissons-nous déjà de ce qu'il a commencé à faire en nous et qu'il va continuer. Réjouissons-nous. N'hésitons pas à parler de ce que Dieu fait en glorifiant Jésus-Christ, qui est en fait cette vie en nous. On veut progresser, je l'ai déjà dit une ou deux fois, mais c'est la marque de l'authenticité en fait. Celui qui est en route et qui veut progresser, ça veut dire qu'il est vivant. Celui qui est mort, il n'a pas envie de progresser, il est mort. On est conscient de nos faiblesses, mais nous nous réjouissons déjà des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et pour ceux qui, parmi nous, en savent peut-être beaucoup sur Jésus-Christ, connaissent, je ne veux pas dire la Bible par cœur, mais peut-être, ou n'en connaissent que très peu, mais qui ne voient en fait pas d'œuvre qui manifeste de foi dans leur vie. En fait, leur vie est la même qu'une personne du monde qui se comporte bien. Eh bien, je vous en supplie de demander pardon à Dieu pour votre orgueil, pour votre amour du monde, pour votre rébellion contre les commandements de Dieu, et de saisir par la foi la grâce de Christ qui a payé à la croix. Une foi sans œuvre ne sauve pas. Ne cherchez pas à accomplir des œuvres pour être accepté par Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et ne pensez pas que croire c'est ce qui est juste dans la vie, sans obéissance au roi, ça suffit. Il suffit juste de croire ces choses. Un ticket pour le ciel, voilà, j'ai cru, là, tout poinçonné, c'est bon. Non. C'est en vivant notre foi que nous sommes dans le salut qui nous conduit à l'éternité. Alors quelle joie, quel encouragement lorsque nous voyons les œuvres que produisent la foi dans nos vies. Louons Dieu, encourageons-nous les uns les autres à chercher ces bons fruits de tout notre cœur en étant attachés à Christ. Il dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ça veut dire qu'avec lui, nous allons porter des fruits. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous exhorte, nous encourage. Nous voyons aussi Jacques qui argumente, qui désire vraiment que nous comprenions qu'il n'est pas possible d'avoir une foi qui n'a aucun impact dans nos vies. Ça ne s'appelle pas la foi qui sauve. Même les démons croient des choses. Seigneur, nous te prions de nous donner cette grâce de ne pas avoir peur de réfléchir à ce que nous vivons, Donne-nous aussi des yeux qui voient ton œuvre, afin que nous puissions nous en réjouir. Et que si quelqu'un parmi nous se rend compte que, ben en fait, il ne vit pas différemment qu'un non-chrétien qui fait bien les choses, qui se donne la peine, eh bien Seigneur, que cette personne puisse être saisie par ton esprit pour comprendre son péché, pour comprendre qu'il est sous le jugement et qu'il est impossible de se sauver soi-même, et qu'il puisse saisir cette grâce de Christ qui est venu mourir à la croix pour payer, pour nous tendre la main, pour nous dire « Viens, viens dans mon royaume. Il n'y a rien à payer pour être sauvé. Et en étant sauvé, tu vas le manifester pour ma joie, pour la joie de Dieu, la joie de Christ, et pour notre joie à nous aussi. » Seigneur, c'est vrai, quelle joie de voir des frères et sœurs en Christ qui vivent leur foi. Et Seigneur, nous voulons te prier pour chacun parmi nous et te dire merci pour tout ce que nous avons pu voir chez chacun. Te prions aussi pour ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui luttent aussi dans différents domaines de leur vie, Seigneur, qui sont à toi et qui désirent grandir avec toi, mais qui ne voient pas toujours comment avancer. Eh bien, Seigneur, j'aimerais te dire merci parce que là aussi, tu t'approches et tu dis, mais je ne vais pas te laisser tomber. Nous allons progresser ensemble. Et tu vas voir, et tout le monde va voir, les œuvres de la foi du salut dans ta vie. Seigneur, quelle grâce de savoir que tu es un Dieu qui manifeste. Tu n'es pas un Dieu des ténèbres, tu es un Dieu de lumière. Tu es un Dieu qui nous garde. Tu es un Dieu qui nous permet de ne pas vivre de la mauvaise conscience. Tu es un Dieu qui nous permet de nous réjouir parce que tu nous permets de voir que tu nous as sauvés. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.